Seigneur, dans ta maison, je suis heureux. Merci de m'y accueillir. Et c'est aussi le début du chant que nous allons chanter dès maintenant, le psaume pour lequel je vous invite à vous relever. C'est le psaume 84 que vous trouvez page 98 et nous y chantons les strophes numéro 1 et numéro 2. Nous louons le Seigneur, éternel, Dieu des printemps qui renaissent toujours. Toi qui recommences sans te lasser et qui, des ruines, tire incessamment des créations rajeunies. Quel plus sûr ami aurions-nous que toi qui nous donne l'espérance plus forte que les regrets. Une nouvelle fois vient nous redire le grand sérieux de la vie, la beauté de l'effort et la fidélité. Dis-nous les amours éternels que la mort n'auront pas et les joies si fermement plantées qu'aucun vent d'orage ne peut les déraciner. Amen. Que nos chants soient joyeux, puisque nous allons prendre le chant du psaume 81, page 96, pour y chanter maintenant les strophes numéro 1, 3, 4 et 7.
Prions pour la conversion avec Blaise Pascal. À qui crierais-je, Seigneur, à qui aurais-je recours si ce n'est à vous? Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut pas remplir mon attente. C'est Dieu même que je demande et que je cherche, et c'est à vous seul, mon Dieu, que je m'adresse pour vous obtenir. Ouvrez mon cœur, Seigneur, entrez dans cette place rebelle que les vices ont occupée. Ils la tiennent sujette. Entrez-y comme dans la maison du fort, mais liez au paravent le fort et puissant ennemi qui la maîtrise, et prenez ensuite les trésors qui y sont. Seigneur, prenez mes affections que le monde avait volées, volez vous-même ce trésor, ou plutôt reprenez-le, puisque c'est à vous qu'il appartient, comme un tribut que je vous dois, puisque votre image y est empreinte. Vous l'y avez formé, Seigneur, au moment de mon baptême, qui est ma seconde naissance, mais elle est toute effacée. L'idée du monde y est tellement gravée que la vôtre n'est plus connaissable. Vous seul avez pu créer mon âme, vous seul pouvez la créer de nouveau, vous seul avez pu former votre image, vous seul pouvez la reformer et y réimprimer votre portrait effacé, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est votre image et le caractère de votre substance.
Écoutons renouveler l'annonce du pardon. Le Seigneur des mondes qui t'a créé, celui qui te guide, qui te nourrit et qui te donne à boire, qui te guérit, qui décide de ta mort, puis te rendra la vie, c'est de lui que tu peux espérer le pardon de tes fautes, qu'il t'accorde la sagesse et te compte au nombre des justes, qu'il t'assiste au dernier jour, au jour où ni la fortune ni les enfants ne seront d'aucun secours et où seul comptera pour l'humain de s'en remettre à Dieu.
Nous lisons dans Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 11. Or, il y a diversité de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, de la foi, par le même esprit. À un autre, des dons de guérison, par l'unique esprit. À un autre, la capacité d'opérer des miracles. À un autre, celle de parler en prophète. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses langues. À un autre, l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Et nous chantons toujours au psaume 65, les strophes 3, 4 et 5.
Thank you.
Avant de lire les Écritures, nous prions. Avec le début d'une prière du matin de Jean Calvin. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me suis confiée en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'ai élevé mon âme à toi. Éternel, délivre-moi de mes ennemis. Je me suis retirée vers toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans le droit chemin. Amen. Et nous disons, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2, les versets 1 à 12, vous avez le texte sur votre feuille de culte. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. » Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils n'y demeurèrent que peu de jours.
Beaucoup de récits particuliers des évangiles sont fabriqués, sont conçus pour permettre une catéchèse complète, exhaustive, je dirais, de la vie et du message du Christ. Beaucoup de ces récits particuliers sont des passages d'un piège, par exemple, à une libération de ce piège, d'une mort certaine et annoncée, à un relèvement, à une guérison, d'une parole contenue, à une parole proclamée, d'une impasse, à un nouvel horizon. Ces récits particuliers sont la joie aujourd'hui des exégètes, évidemment, mais étaient pour l'audience et pour les catéchumènes des premières années, des premières églises de ce qu'on appelle les croyants au Christ, ces récits étaient des façons d'entendre raconter de façon subtilement codée, la vie et le ministère entier du Christ. Parfois, de la naissance, de sa venue dans le monde, comme quand il arrive dans telle ou telle ville, et toujours finalement jusqu'à sa résurrection, son relèvement. Tous les évangiles, vous le savez, ont été écrits après la résurrection. Cet événement qui a été senti indéniablement, senti, qui a été reçu, a donné à certains l'envie, le désir et même l'obligation de se rappeler, de compiler, d'écrire, de raconter ce qu'il s'était passé. Et cela était dans la certitude qu'il n'était pas de simples chroniqueurs du passé, mais qu'ils étaient les révélateurs de l'intensité d'un nouveau présent. Sans la tempête mentale de la résurrection, toutes ces histoires seraient restées des lettres mortes et aussi n'auraient pas été écrites, composées de cette façon. Ici, dans notre texte du jour dans l'Évangile de Jean, cela en devient presque flagrant. Le code est beaucoup moins caché que dans d'autres récits. Déjà, la formule inaugurale, le troisième jour. Cette formule nous envoie directement dans le narratif que nous connaissons tous de la résurrection. Ici, le code est vraiment limpide. Dans cet univers parallèle où tout est déjà accompli, il faut quand même raconter pour révéler à ceux et celles qui n'étaient pas là. Ici, la véritable biographie de Jésus commence, on va dire, de façon biologique, par cette mère qui donc était là, verset 1. Une femme qui, avant toute biographie humaine, donc avant tout récit d'une vie, même la vie de nous-mêmes, anonymes que nous sommes, une femme qui est forcément là. Une femme est toujours là, d'abord là. Et cette femme du récit, commun à toute l'humanité, prend toujours le nom, la fonction finalement, en somme, de mère. La mère de Jésus était là, avant lui. Puis, dans notre texte du jour, tout aussi naturellement, Jésus arrive. Arrive dans le texte, comme il vient au monde, comme il naîtrait. Il arrive invité. Il y a deux questions de philosophie, je dirais primaires, que tout un chacun, je crois, nous nous sommes posées, et souvent très tôt, et parfois même dans l'enfance, environ à partir de 7 ans. Où étions-nous avant d'arriver ? C'est classique. Puis après, si on prolonge, si on trouve des adultes un peu compétents pour explorer avec nous cette immense question, étions-nous ? Et comment arriver à penser cela ? Et l'autre question, un peu plus adolescente en termes de philosophie, puisque nous sommes là, y avons-nous été invités ? Ou bien, y sommes-nous des intrus ? Y avons-nous été alors peut-être projetés, voire déportés ? Thème majeur de science-fiction. Jésus dans les évangiles, vous l'avez remarqué, est un peu les deux. Mais le mot grec ici veut d'abord dire « appeler ». Inviter, appeler. C'est ce mot grec qui entre aussi dans la composition de notre mot bien connu, qui est le mot « église », qui est une assemblée issue d'un appel ou d'une invitation. Dans cette introduction de ce texte, d'une densité considérable, nous avons le début de la vie de tout le monde, Nous avons le début de la vie de Jésus, finalement. Nous avons les questions primordiales de notre sens au monde. Nous avons la définition, et on en verra le cadre, d'une Église qui est à la fois un événement issu d'un appel, mais aussi qui est cette instance qui lance un appel à Jésus pour qu'il vienne et à son esprit pour que celui-ci vienne dans notre monde, notre Église, notre assemblée et finalement notre fête. Maintenant, après avoir tenté de défricher un petit peu cette densité extrême de ce début de texte, on va dérouler ce récit d'une façon linéaire. Et dans cette prédication, il y aura deux parties. Une partie plus analytique et l'autre un véritable sermon, pour une fois. Les disciples de Jésus suivent. On apprend donc ici, en termes de catéchèse, que Jésus est le maître d'une école particulière. Je ne vous l'apprends pas, évidemment, mais c'était important pour les catéchumènes de l'époque de l'apprendre. On apprend que Jésus était le maître d'une école particulière, l'école de l'Évangile, on va dire, avec des disciples, c'est-à-dire des élèves. Dans cet univers qu'on appelle post-pascal, c'est-à-dire qui se situe après Pâques, tout devient maintenant à la fois complètement extravagant, un peu l'état d'esprit dans lequel vivaient les gens de cette époque. Extravagant, mais aussi très significatif. On y va. Extravagant. Jésus congédie sa mère, vous l'avez lu, entendu, en l'appelant femme et en lui disant explicitement qu'ils n'ont rien en commun. Ma voisine, tout à l'heure, en entendant ce texte, m'a dit « Salomon ». Ma voisine est mon épouse. Hein. Alors, à chaque époque, c'est un comportement assez répréhensible, vous en conviendrez, mais encore plus dans la mentalité de ce temps-là, évidemment, et ces lieux-là. Dans le décalogue, dans les 10 commandements, donc, vous le savez, on a l'impératif, et c'est un impératif, d'honorer son père et sa mère, et Jésus contrevient parfaitement à cet impératif-là. Jésus est donc présenté ici comme s'il était dans délié des contingences héréditaires ou biologiques, comme si finalement il était déjà ressuscité, c'est-à-dire débarrassé des linéaments génétiques et généalogiques dans lesquels nous, terrestres, nous sommes enserrés pour le pire et parfois pour le meilleur, tous ces fils utiles pour nous représenter face à nous-mêmes, évidemment, et aussi pour exister face aux autres. Et j'ai une petite anecdote, non écrite. J'avais 20 ans environ, j'étais étudiant en théologie, et je me suis retrouvé au musée du désert, et je tenais le stand du fameux hebdomadaire Réforme, qui existait déjà il y a plus de 40 ans. Et j'étais là, je tenais mon stand. Arrive un monsieur qui prend des réformes gratuites à l'occasion. Un monsieur qu'à l'époque, je me représentais comme un protestant classique, bien habillé, strict, sans ostentation, petites lunettes, voix grave. Bref. Et il me demande ce que je fais là. Je lui réponds que je tenais le stand. Et il me demande comment je m'appelle. Alors je dis, je m'appelle Robert Philippoussi. Bref, ce qui était mon nom. Elle me dit, ah oui, Philippe Houssy, vous êtes bien le fils de celui qui écrit dans Réforme. C'était moi qui écrivais les articles dans Réforme. C'était pas mon père. Et donc, je me suis dit, laissons faire, il m'a reconnu. Je suis dans la lignée protestante des écrivains de Réforme, qui à l'époque autorisait des jeunes gens à écrire. Ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui. Voilà, fin de l'anecdote. À propos des linéaments et des fils. Extravagantes encore ces jarres qui, délaissées de leur fonction rituelle, celle de servir aux ablutions, vont devoir être remplies par environ 700 litres d'eau, de l'eau pas forcément potable, et donc dans le jeu du texte, par environ 700 litres de vin, là, véritablement potable. À boire. 700 litres de vin, de quoi s'enivrer jusqu'à la fin du temps. C'est pour ça que je vous ai mis dans votre feuille de culte le tableau au décor anachronique, certes, de Véronèse, mais extravagant, et je vous ai mis aussi quelques-uns de ces détails pour témoigner de cette extravagante ampleur. Et ici, on a aussi, en termes de catéchèse destinée à ceux et celles qui se convertissent à ce mouvement multiforme des premiers croyants au Christ, on a une représentation des noces extravagantes, s'il en est, des noces dites de l'agneau. On a une représentation du festin final de la fin des temps. Alors, le catéchumène, il en prend plein la tête avec ce texte. Hein. Il ne s'agit pas de n'importe quelle noce, loin s'en faut. Ce signe des noces de Cana, le premier et aussi le plus connu des signes de Jésus, car je pense que si vous faites un petit sondage dans la rue, Jésus c'est quoi ? Ben, c'est quelqu'un qui a marché sur l'eau, bon, ça tout le monde le sait, bien que ce ne soit pas un texte très important, et qui a changé l'eau en vin. Voilà. Donc c'est un des signes les plus connus. Mais c'est aussi le signe qui devient diapason du thème du changement qui est le marqueur de la conversion du catéchumène, celui qui va demander le baptême. Il n'y a pas que l'eau, et loin de là, qui se transforme dans ce récit. La mère, donc, qui est, je le rappelle, le titre d'un personnage, redevient provisoirement femme. Et donc peut devenir, si elle le souhaite, disciple. Jésus lui-même, on l'a vu, n'est plus simplement le fils de sa mère, à qui il annonce n'avoir plus aucun lien. Mais il est déjà, peut-être, on peut interpréter, le fils de l'humanité entière. Mais aussi, la matière rituelle n'est plus un élément naturel impérissable et cyclique, comme la vulgaire eau, mais devient une fabrication humaine et périssable qui est le vin. Le vin, donc, qui est fragile, le vin qui est précieux, peut-être coûteux, une matière enivrante comme la vie urgente qui se boit jusqu'à la lie et qui se volatilise. On a ici un marqueur important. Avant, cette eau symbolisait la pérennité d'une religion et de ses pratiques essentiellement mémorielles ou respectueuses. Et maintenant, le vin désigne quelque chose à saisir ici et maintenant, car il va se périmer, il va disparaître. Dans le même ordre d'idées symboliques, on arrête les ablutions, les devoirs religieux, parce que désormais il est temps d'aller aux noces, et il n'est plus temps d'attendre, le temps presse. Cette foi des premiers croyants au Christ ne peut pas se comprendre sans avoir conscience que tous ces évangiles ont été écrits par ceux et pour ceux qui se vivaient dans la fin des temps. C'est une dimension très importante pour comprendre les évangiles. Cette eau et ce rouge du début de cet évangile renvoient aussi à la fin du même évangile quand un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt, dit le texte, il en sortit du sang et de l'eau. Chapitre 19 de Jean. On voit ici, pour admirer encore, un effet de construction de l'évangile de Jean. Discrètement, ces noces de Cana annoncent la mort de Jésus. Mais les changements ne sont pas finis. Vous l'avez noté dans la parole de Claire tout à l'heure qui a lu le texte, les serviteurs aussi changent. Ici, le mot ne désigne pas des esclaves, mais désigne des employés en service, des diacres. Dans cette assemblée mondaine, ils ne faisaient auparavant qu'obéir aux ordres. Désormais, ce sont eux les seuls à savoir, verset 9. Un verbe très important. Ce récit envoie un message à tous les serviteurs que nous pourrions être, à méditer sur ce privilège d'avoir été des témoins, donc d'avoir su. Je l'ai toujours pensé à l'encontre, je crois, de la conception commune que croire, c'est aussi savoir. Mais ce savoir se refuse à l'universalité. Il est un savoir intime, pudique, et néanmoins extrêmement solide. Quand nous disons « Amen » à la fin d'une confession de foi ou d'une prière, nous convoquons à partir de l'hébreu étymologiquement ce qui est vrai, mais pas que, ce qui est établi, mais pas que, et aussi ce qui est solide. Amen, donc. Alors, on peut noter plein de choses sur lesquelles je peux passer, mais avec lesquelles je serais ravi de parler avec vous. Plein d'autres changements, mais le changement le plus notable est qu'après cet événement, ses disciples, dit ce texte, crurent en lui. Et c'est très étonnant et presque de l'ironie, ce qui est rare chez Jean. Ses disciples crurent en lui. Alors, ils étaient quoi avant ? Ils ne croyaient à quoi avant les disciples de Jésus ? Il leur manquait probablement quelque chose. Et c'est ça que reçoit maintenant le catéchumène, qui apprend ce texte, qui reçoit ce texte, à qui on explique ce texte. En fait, il te manquait quelque chose. Voilà, je voulais simplement ce matin reconcevoir cette prédication comme une invitation à aller revoir ce texte, qui est un manifeste de la foi au Christ ressuscité, une description méthodique qu'après cet accomplissement, rien n'est plus pareil, que tout a changé, et c'est un message vitaliste adressé aux premiers croyants qui ont conscience que le monde ancien a disparu. Mais maintenant, voici le sermon. Vous l'avez deviné, c'est aussi un message pour nous, car tous les changements que je viens de détailler, et j'en ai passé, ce sont les changements qui devraient en chacun de nous être manifestes comme autant de signes de notre conversion, en grec de notre métanoïa, qui veut dire changement dans notre intelligence, comme nous en sommes loin. La première des conditions pour la conversion est de nous remettre dans le sentiment d'urgence, celui que vivaient les premiers chrétiens. Ce sera toujours mieux que de faire défiler nos jours ou de tenter de tuer le temps. Frères et sœurs, nous n'avons pas le temps. Nous n'avons jamais eu le temps. Les premiers chrétiens n'avaient pas le temps. Tout simplement à cause de la mort, nous devrions savoir que nous n'avons pas le temps. Mais cette fameuse mort, elle est aussi dans ce récit prodigieux parfaitement intégré et simultanément dépassé. Les premiers croyants au Christ n'ont pas le temps pour continuer à mettre la mort à la place centrale, déterminante, exclusive. Ce problème est dépassé. Mort, où est ta victoire, dit Paul, avant Jean. Ensuite, nous devrions être débarrassés des liens de notre généalogie. Ces liens ne devraient plus, face à l'Évangile, se tenir, et face à Dieu, face à sa présence que nous pourrions refuser d'admettre. Tous ces liens, tous ces linéaments ne devraient plus continuer à nous définir. Mais voilà, nous avons tellement peur du vide que nous préférons nous réfugier dans le ressassement identitaire, comme si nous étions une marionnette dépendante exclusivement de ces fils qui nous agitent, qui nous orientent. Bienvenue dans les noces de Cana. Alors, ça fait quoi de marcher débarrassé de ces fils ? Ensuite, évidemment, très important, nous débarrasser de la monstruosité inutile de ces jars remplis d'eau. Et là, ça évoque peut-être nos religions personnelles, nos religions intimes, nos rituels qui nous définissent. Je ne parle pas de notre protestantisme ni du christianisme, mais de la religion que nous avons invitée en nous pour la pratiquer, pour en devenir les prêtres, les dieux, les esclaves. Débarrasser de ces jars, c'est peut-être ce que nous devons faire, nous en débarrasser. Débarrasser aussi de proclamer toujours et sans cesse qu'en matière de foi, nous devrions refuser le savoir et nous pencher sur ce que nous avons reçu pour croire. Pensez à notre témoignage intérieur. Pensez à ce doute que nous n'avons pas quand nous nous référons à notre expérience de Dieu qui nous, un jour nous a fait dire « je crois ». Donc, en référence à ses serviteurs, abandonnons l'annonce du doute. Voilà, vous relirez les noces de Cana et vous verrez si tous les changements qui se produisent dans ce récit vous parlent vous donne envie de conversion, vous relève et vous ressuscite. Mais je dirais surtout, en conclusion, il faut relire les noces de Cana pour enfin passer du stade de bon élève au stade de disciple véritablement croyant. Amen. Sur votre feuille de culte se trouve le texte de notre confession de foi. Dans cette église, nous sommes appelés la plupart des cultes à la lire ensemble et debout. Nous pouvons dire ensemble la confession de foi. Je crois en Dieu, notre Créateur, il est amour. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a témoigné, il a soigné, il a écouté. Il a guéri, il a souffert, il a été assassiné, il a été relevé. Présent dans nos vies, il nous pardonne. Il nous montre le chemin, lumière du monde. Son règne dépasse le temps. Malgré notre faiblesse, je crois que Dieu place sa confiance en nous. Je crois qu'en Jésus-Christ, Dieu se présente comme l'espérance des humains, et l'humain comme l'espérance de Dieu. Je crois en l'Esprit présent au monde et au cœur de la création. L'Esprit donne la paix, crée et recrée la vie et le monde, le dynamise et le conduit vers son règne. Je crois à la communion de tous dans la foi, l'espérance et l'amour. Je crois à l'amour plus fort que la mort. Je crois à la vie éternelle. Cette prière est très particulière puisqu'elle provient d'un camp de concentration en Allemagne. Paix à tous les hommes de mauvaise volonté. Que cesse toute vengeance et tout appel au châtiment. Les crimes dépassent toute mesure. Il y a trop de martyrs. Aussi, ne mesure pas leur souffrance au poids de ta justice, Seigneur, et ne laisse pas ces souffrances à la charge des bourreaux pour leur faire payer une terrible facture, que tout soit payé d'une autre manière. Inscris en faveur des bourreaux, des délateurs, des traîtres et de tout homme de mauvaise volonté, le courage et la force spirituelle des autres, leur humilité, leur dignité, leur lutte intérieure constante et leur indicible espérance, le sourire qui étanche leurs larmes, leur amour, leur cœur brisé qui demeure ferme et confiant à la mort même, oui, jusqu'au moment de la plus extrême faiblesse. Que tout cela soit déposé devant toi, ô Seigneur, pour le pardon des péchés, comme rançon pour le triomphe de la justice, que le bien soit compté, non le mal, et que les victimes restent dans le souvenir de ceux qui les persécutent, non comme un cauchemar, non comme des spectres attachés à leurs pas, mais comme des soutiens dans leurs propres efforts pour réduire la furie de leur passion criminelle. Nous ne te demandons rien de plus. Et quand tout cela sera fini, donne aux victimes de vivre, Seigneur, homme parmi les hommes, et que la paix revienne sur notre pauvre terre, paix pour tous les hommes de bonne volonté et pour tous les autres. Nous pouvons dire le Notre Père ensemble, s'il vous plaît. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le premier chant que nous allons apprendre dans ces tout derniers moments du culte, c'est Amen. Vous le trouvez 53-11, c'est la numérotation de votre recueil, page 874. Le 53-11, page 874. Pour apprendre ces deux petits chants, nous allons nous relever. On va écouter Emmanuel qui va nous développer cette mélodie chinoise. Fois. Merci Emmanuel. On peut chantonner en même temps. Si... Amen. on peut chantonner plus fort. Dernière fois.
Amen, 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 amen.
Jusqu'ici, c'est un succès. Donc, alors, là, on ne va pas chanter toutes les strophes, loin de là. C'est un psaume, mais qui est méconnu. Page 108, oui, psaume 96. On va juste s'occuper de la première strophe, car il s'agit essentiellement de la mélodie. Hein. 96. Chantez, peuple, partout sur terre. Alors, on va l'entendre, assez rythmé, hein, quand même. C'est un faux ami, parce que c'est un air qui ressemble à beaucoup d'autres, mais je pense que nous le connaîtrons. Voilà, à moins que vous vouliez rechanter le mot, le Amen. On... Oui ? C'est vrai ? Ben alors oui, alors. 53-11. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Allons en paix. Amen.